Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On vous souhaite une excellente année 2022. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux. On est très heureux de vous retrouver ce lundi 3 janvier.
Et une nouvelle année, mais toujours les mêmes recettes, évidemment, de l'info et du sourire. Et justement, ce 3 janvier, on souhaite aussi une très bonne fête à toutes les Ginettes.
Vous êtes des vedettes de la télé ?
Va-t'en.
Je veux pas vous importuner, monsieur, dame. Mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay ?
Silence, maintenant, tu vas prendre une claquade.
Parce qu'en fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse, et ben, si vous puissiez m'avoir une petite audition, je chante pas plus mal que Steph de Monac. Écoute là, cassez la voix.
Ouais, je chante pas plus mal que Steph de Monac, la plus culte des Ginettes dans les Visiteurs. On embrasse toutes les dames Ginettes de France ce matin. Voilà, dans l'actualité, Julien.
Une rentrée sous le signe de la nouveauté. Nouveau protocole sanitaire dans les écoles, nouveau protocole d'isolement. Bref, plein de nouvelles règles à appliquer dès aujourd'hui.
Et dans le Lot, il y a le télétravail obligatoire.
3 à 4 jours par semaine, quand c'est possible, c'est la demande du gouvernement. Comment s'organisent les entreprises? D'autant qu'à cela s'ajoutent les plus de 200 000 contaminations au Covid chaque jour. C'est autant d'absences qu'il faut compenser. Un mur d'arrêt maladie qui pourrait provoquer la paralysie de l'économie. On va en parler à 6h10 avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. Autre nouveauté, Omblin, nouvelle mesure entrée en vigueur le 1er janvier, la contraception gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans.
C'est-à-dire certaines pilules, les implants contraceptifs, les stérilets ou encore les diaphragmes. Et cela concerne aussi tous les frais qui y sont liés, une consultation annuelle avec un médecin ou une sage-femme et d'éventuels examens biologiques.
Jusqu'à présent, seules les jeunes femmes mineures bénéficiaient d'un accès gratuit à la contraception.
Oui, c'est donc une avancée pour une partie des Françaises. Mais est-ce suffisant? Nous serons à 5h45 avec Sarah Durocher, la coprésidente du planning familial.
Et puis, comme chaque matin, on terminera avec votre partition, Blaine.
Oui, un chanteur à la voix de velours, au sourire éclatant et aux roues flaquettes, parfois vertigineuses.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages.
Le charismatique Michel Delpech, dont on célébrait hier le 6e anniversaire de la disparition. Rendez-vous à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. On commence par la météo. Bonjour ma chère Anissa Haddadi.
Bonjour Julien,
bonne année à
bonjour
vous.
Omblin, bonne
bonjour,
année.
Bonjour, bonne année.
Quel temps pour ce lundi de rentrée?
Alors, c'est un temps assez nuageux sur les deux tiers nord du pays, hein, avec une perturbation là, qui nous arrive tout droit. On la voit arriver là actuellement par le nord-ouest. Donc ce matin, au nord d'une ligne qui va de Bordeaux jusqu'à la Franche-Comté, hein, jusqu'à Belfort en passant par l'Auvergne, eh bien, au nord de cette ligne, on a un ciel nuageux, couvert ce matin, avec même en Bretagne et sur les pays de la Loire, la Haute-Normandie et les Ardennes, quelques petites gouttes. Et puis cet après-midi, on aura des pluies qui vont s'étendre sur toute la moitié nord. Au sud du pays, là, on a un ciel un peu plus clair, même ensoleillé. Cet après-midi, il fait très beau. Hein. De la Gironde jusqu'aux Alpes, en passant par le pourtour méditerranéen et les Pyrénées. Alors là, c'est vraiment... C'est l'été indien qui se poursuit très tard, hein, puisqu'on est le 3 janvier. Ouais. En revanche, côté température, alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Il fait très doux. On a des températures qui sont 5 à 8 degrés au-dessus des moyennes. Vous l'avez peut-être senti, parce que là, ce matin, à 5 heures, on a 12 à Dunkerque, 11 à Paris. On a 4 degrés. Alors là, dans le sud, il n'y a pas de nuages, donc il fait frais. 4 à Mont-de-Marsan, 5 à Nîmes et 6 à Carcassonne. Cet après-midi, 10 à Cherbourg, 13 à Paris et 21 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ouais, à m'étonner,
il fait très doux.
On verra si c'est une bonne nouvelle plus tard. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très belle année à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Si en plus de ça, il faut qu'on fasse les autotests, je le ferai pas. Je me refuse, hein.
Ce que refuse cette mère de famille, c'est le nouveau protocole sanitaire en vigueur à partir d'aujourd'hui dans les écoles. À chaque cas de Covid dans une classe, tous les élèves doivent se faire dépister 3 fois, dont 2 avec un autotest. Rentrée chahutée pour les élèves et rentrée mouvementée pour Emmanuel Macron. Entre Omicron, présidence de l'Europe et présidentielle, le chef de l'État devrait d'ailleurs annoncer sa candidature entre fin janvier et début février. Et puis un géant économique est né le 1er janvier. 15 pays de la région Asie-Pacifique réunis autour de la Chine viennent de créer la plus vaste zone de libre-échange au monde. L'Europe risque d'y laisser des plumes.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Est-ce que ça va être la galère dans les écoles ce matin? Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Nouveau protocole sanitaire. Un cas positif dans une classe et tous les élèves doivent se faire tester 3 fois. Une fois avant de revenir en cours, puis à J+2 et J+4 à l'aide d'autotests gratuits. Reportage dans une famille du Val d'Oise où on appréhende le retour en cours.
Il y a des nouvelles restrictions, maman elle va vous les lire, d'accord ?
Ok.
Tous les élèves doivent faire un test.
Manel est en CM1, mais dit en CM2, bientôt ils devront multiplier les tests à l'école et ça s'annonce déjà compliqué.
En fait, après ça gêne là, et après ça pique.
Bah moi ça, j'aime pas, j'en ferai que deux.
Samira, la maman, souffle, c'est encore une mauvaise nouvelle pour cette rentrée déjà difficile.
Ça va être très contraignant. Très honnêtement, je pense qu'on ne tiendra pas. Si en plus de ça, il faut qu'on fasse les autotests, je le ferai pas. Je me refuse. Hein. Il suffit que mon enfant bouge. Non, c'est un acte trop dangereux, moi, je... Non.
Alors, avant de retrouver la cour de récréation, quelques rappels s'imposent.
D'où l'importance de maintenir les gestes barrières, de remettre bien le masque. Je sais que ça te saoule, mais c'est surtout bien se nettoyer les mains.
Et les deux écoliers sont très équipés. Mehdi ouvre son cartable.
J'ai des masques, du gel... Moi, avec ma mère et ma sœur, on l'appelle la trousse contre le Covid.
Une trousse de secours, mais aussi beaucoup d'inquiétude.
On va pas s'en sortir. En mars, dans 3 mois, ça fera 2 ans qu'ils vivent avec ça. Malheureusement, ils n'ont pas trop le choix. Hein, Manel ?
Et les enfants le répètent, de toute façon, faut qu'on s'habitue.
Reportage signé Thibaut Hu pour Europe 1.
Et dans les collèges et lycées, le SNES-FSU, le principal syndicat d'enseignants, a déposé un préavis de grève pour cette semaine, estimant que les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes.
Par ailleurs, Jean Castex, le Premier ministre, réunit cet après-midi 10 ministres pour faire un point sur l'impact du variant Omicron et veiller à ce que les services publics qui pourraient manquer de bras puissent continuer de fonctionner. L'inquiétude principale, c'est l'hôpital. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera autour de la table, tout comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Jean-Michel Blanquer à l'éducation.
Les règles d'isolement changent également aujourd'hui.
Oui, hein, c'est le cas pour les personnes contaminées et cas contact. C'est désormais le schéma vaccinal et non plus le variant qui détermine le nombre de jours d'isolement. Pour une personne totalement vaccinée et contaminée, c'est 7 jours avec possibilité de lever la quarantaine au bout de 5 jours en cas de test négatif. Plus d'isolement pour les cas contacts vaccinés également, ce qui pourrait permettre aux entreprises d'un peu mieux fonctionner. Aurélien Fleureau.
Le mois de janvier ne sera pas facile, mais cette évolution des règles enlève une sacrée épine du pied de bon nombre d'entreprises. Le casse-tête des 10 ou 17 jours s'est terminé, à la grande satisfaction de Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF.
C'est un soulagement hein, quand on voit la proportion de cette vague Omicron avec le chiffre des contaminations qui explose. C'est plutôt là, à la rentrée, que la désorganisation éventuelle va se manifester. Et donc, c'était vraiment de bonne aloi de réduire les périodes d'isolement. Ça allait devenir compliqué de continuer comme ça.
Les transports avaient été très impactés entre avions cloués au sol et trains à l'arrêt. Mais le soulagement existe dans de nombreux secteurs, explique Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises.
C'était très important de revoir ces règles. Par exemple, dans le cas du bâtiment, quand vous avez des équipes de personnes qui travaillent sur un même chantier, on risque d'avoir l'ensemble du chantier qui est à l'arrêt s'il manque un corps d'État. Et là, on va pouvoir davantage s'organiser.
La CPME reste inquiète pour certains secteurs comme les services à la personne, où la pénurie de compétences reste problématique lorsque les absences s'accumulent.
Aurélien Fleureau, journaliste au service Écho d'Europe 1.
Et on va reparler de ce nouveau protocole sanitaire en entreprise et du télétravail 3 à 4 jours par semaine à 6h10 avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH.
Députés se penchent aujourd'hui sur le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce sera mercredi au Sénat pour une entrée en vigueur le 15 janvier. Cette vague Omicron dont l'exécutif se serait bien passé à 3 mois de la présidentielle, mais aussi la récente polémique sur le drapeau européen sous l'arc de triomphe, retiré à l'aube hier. Jacques Serret, la rentrée 2022, la dernière du quinquennat Macron, s'annonce mouvementée, mais aussi et surtout capitale pour le chef de l'État.
Oui, c'est la dernière ligne droite, mais plus que jamais, Emmanuel Macron marche sur un fil. Le coronavirus qui a empoisonné la moitié de son quinquennat n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, au pire moment pour le locataire de l'Élysée, à 3 mois du scrutin, juste avant de se lancer. Car s'il n'est toujours pas officiellement candidat, c'est tout comme lors de ses vœux aux Français. Il y a 3 jours, Emmanuel Macron a défendu son bilan et tenté de tracer les contours de sa future campagne. En coulisses, l'annonce de sa candidature se précise. Elle devrait intervenir entre la fin du mois et début février. En attendant, le président fait le pari de l'Europe pour travailler son image. Il veut mettre à profit la présidence française du Conseil de l'Europe. Jeudi soir, il recevra pour un dîner de travail les 27 commissaires européens. Surtout, selon nos informations, il est question qu'Emmanuel Macron préside aux côtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, une cérémonie d'hommage vendredi matin au Panthéon pour Simone Veil et Jean Monnet, deux défenseurs de l'Europe. preuve qu'à 100 jours du premier tour de la présidentielle, le chef de l'État ne compte surtout pas lésiner sur les symboles, au risque de faire bondir les oppositions de droite et de gauche, bien décidées à ne rien lui laisser passer.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
En économie, c'est l'une des petites ou plutôt grandes nouveautés depuis le 1er janvier dont on a assez peu entendu parler, la création de la plus vaste zone de libre-échange au monde.
Son nom, RCEP, un accord entre 15 pays de la région Asie-Pacifique, parmi lesquels la Chine, le Japon, l'Australie, mais aussi la Corée du Sud. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik.
Son acronyme est difficile à prononcer, mais le RCEP, pour Partenariat Régional Économique Global, risque de bouleverser les équilibres. C'est la plus vaste zone de libre-échange du monde qui est née le 1er janvier, avec un abaissement progressif des droits de douane. Ce nouveau bloc, qui comprend notamment la Chine, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, représente à lui seul le tiers du produit intérieur brut de la planète et le tiers de la population mondiale. 90% des droits de douane vont être progressivement supprimés, comme l'explique le porte-parole du ministère chinois du commerce, Gao Feng.
Dans l'ensemble, les pays membres du RCEP se sont engagés à ouvrir plus de 100 secteurs commerciaux des services, couvrant la finance, les télécommunications, les transports, le tourisme ou encore la recherche et le développement.
Alors la Chine, deuxième puissance économique mondiale, entend bien profiter au maximum de cet accord. Et déjà depuis ce week-end, les échanges se sont accélérés. Ils pourraient atteindre 37 milliards d'euros dès cette année, alors que dans le même temps, les exportations de l'Union européenne vers la région devraient diminuer d'au moins 2%. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et en parlant de gros sous, on termine ce journal avec une belle histoire.
Oui, pour cette quadragénaire dont vous avez peut-être entendu parler, elle a décidé de venir tenter sa chance au casino de Saint-Malo avant-hier avec une mise de 80 centimes. Elle est repartie, écoutez bien, avec un chèque de 209 000 euros, le deuxième plus gros gain de l'histoire de l'établissement. François-Stéphane Vergne est le directeur du casino.
Elle a commencé à jouer et elle a mis 80 centimes et la machine lui a donné un jackpot de plus de 209 000 euros. Moi, je suis arrivé à quelques minutes après. La personne, en fait, ne comprend pas et ne réalise pas. On l'isole un petit peu. On lui a offert une coupe de champagne pour lui souhaiter une bonne année et lui expliquer un petit peu ce qui lui arrivait. C'est une personne qui n'a pas l'habitude de jouer dans les casinos. C'est vraiment très exceptionnel. Là, elle vient jouer. C'est la nouvelle année. Elle a accompagné sa maman et puis elle s'est mise sur une machine à côté. Elle a joué comme ça. C'est le vrai pur hasard. On s'est vu au téléphone ce matin, elle commençait à se rendre compte de ce qui lui était arrivé. Mais effectivement, c'est une vraie surprise. Elle ne peut pas encore dire ce qu'elle va en faire, puisqu'elle n'y a pas pensé, elle n'a pas fait les démarches au préalable de se dire « si jamais je gagnais une grosse somme, voilà ce que je ferais ». Je pense que c'est une décision qui va se mûrir au fil des heures et au fil des jours.
Des propos recueillis par Arthur Pereira pour Europe 1.
On aimerait bien avoir une pareille chance.
Oui.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1. C'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger, on va jouer. Ouais. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 805 Wepa, deuxième d'un handicap similaire le 11 décembre sur le parcours qui nous intéresse. Je sais qu'il a depuis été préservé en vue de cet objectif. Désormais à 100% de ses moyens, il aura en plus l'avantage d'évoluer chez lui à domicile. Dès lors, il devrait pouvoir justifier les bruits favorables dont il fait l'objet le matin depuis plusieurs jours sur les pistes d'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi à Pau, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 5, Wepa.
Le numéro 5, merci Thierry Léger, et puis vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Ne vous éloignez surtout pas, le premier pressing de 2022 va ouvrir ses portes et comme l'année dernière, en 2021, on a choisi trois histoires à vous raconter.
Au menu ce matin, un radar anti-bruit, la bière de la discorde et le cochon le plus cher du monde. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge.
Bienvenue dans La France bouge, dans notre bulle d'optimisme où on vous fait découvrir des entreprises qui font la fierté de la France.
Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Les fêtes sont terminées, comment se présente le retour dans les bureaux pour 2022 ?
Jean-Claude Delgen, le spécialiste du monde du travail, est notre invité.
La France bouge.
A tout à l'heure, 13h, 14h sur Europe 1.
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h11, bon réveil ce lundi 3 janvier, très belle année à vous tous. C'est le pressing made in 2022, le même que 2021.
On s'est pas foulé.
Non, on n'a pas cherché bien loin. C'est votre revue de presse, bien sûr, et avec nous, Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour à tous, bonne
Bonjour,
année.
Bonjour, bonne année.
On commence avec les unes de vos journaux pour changer. Tiens, école, télétravail, cas contact. Les nouvelles règles de la rentrée, titre aujourd'hui en France avec, pour illustration, un enfant portant un masque. C'est en effet l'une des nouveautés. Le masque devient obligatoire dans les espaces publics dès l'âge de 6 ans. La bataille présidentielle de 2022 est lancée. C'est le titre à la une du Figaro qui, à 100 jours du premier tour, fait un état de lieu des différentes candidatures. Obligé de repartir en campagne dans un contexte sanitaire contraint. Et puis comme des pros, voilà ce que l'on peut lire à la une de l'Équipe au lendemain de la victoire 3-0 des professionnels de l'OM face aux amateurs de Chauvigny, club de National 3. Les Marseillais sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous retenu ?
C'est un bruit dont on aimerait pouvoir se passer. Et pourtant, presque. Ça nous rappelle nos jeunes années, Julien, vous, dans les montagnes de Haute-Savoie, les motocross boueuses lancées à l'assaut des chemins entre les arbres de forêt de sapin.
Oui.
Moi, sur les routes goudronnées du Var, un chapis débridé avec la Méditerranée pour décor.
Oui, un quoi c'est... Un chapis ?
Un chapis.
C'est quoi ?
Oh, bah, vous irez voir sur Internet un chapis.
C'est un scooter ?
C'est une petite moto. C'est une petite moto. Le chapis, vous ne connaissez pas ?
Non, je suis resté à mes motocross au Savoyard.
C'est vrai que le chapis dans les montagnes, ça ne fonctionne pas, n'essayez pas. Donc c'est un bruit qui, dans certains endroits de France, va bientôt être sanctionné. C'est aujourd'hui en France, Le Parisien qui en parle ce matin, après les radars qui mesurent la vitesse. Bienvenue au radar sonore contre les deux roues trop bruyants, vous l'aviez compris. Et les premiers à en bénéficier seront les habitants de Saint-Lambert, dans les Yvelines, en région parisienne. Saint-Lambert, avec ses virages sinueux. Et des motos au pot d'échappement trafiquées, un enfer, surtout l'été. Et bien, dès demain, dans la Haute-Vallée de Chevreuse, 3 radars sonores test vont être installés. Ils vont contrôler automatiquement le niveau d'émissions sonores des véhicules. L'essai va durer 6 mois, avec en bout de course l'homologation du dispositif avant de passer à la phase de verbalisation. L'amende sera salée, 135 euros pour les contrevenants. Alors plusieurs questions se posent, je vois vos regards qui s'interrogent, messieurs. Quel sera le niveau sonore autorisé ? Pas de réponse encore de la part des autorités. On nous assure en revanche que ces radars sonores pourront détecter le passage de plusieurs motos. Faire le distinguo entre une moto en règle avec un ronron dans le moteur et une moto qui rugit bien trop fort. Le but est de verbaliser ceux qui modifient volontairement leur engin pour faire de leur scooter tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique, ça va ?
Oui.
Bon, après Saint-Lambert, d'autres municipalités vont avoir droit à leur radar anti-bruit, notamment Paris, Nice, Toulouse, Bron, tout près de Lyon. La cacophonie provoquée par les motos débridées est un problème sérieux de santé publique. D'après l'Observatoire du bruit en Île-de-France, elle ferait perdre 11 mois d'espérance de vie en bonne santé aux Franciliens. Donc il faut vraiment s'attaquer à ce problème. L'inauguration du premier radar contre les deux roues trop bruyants, on peut lire ça dans Le Parisien aujourd'hui en France.
C'est vrai que le bruit de certains deux roues est assez insupportable. Mmh. Merci beaucoup Ombline. Martin, on vous écoute.
Vous connaissez tous la bière Leff, L-E-2-F-E, mais connaissez-vous la Leff, L-E-2-F sans E ?
C'est pas la même ?
Non, c'est pas la même. C'est une bière bretonne conçue dans une micro-brasserie des Côtes d'Armor, et son nom est très proche, homonyme même de la Leff, mais en Rhône, le géant de la bière AB InBev, le propriétaire de la dite Leff, le groupe belgeo-brésilien a même publié un communiqué, selon lui le nom Leff crée la confusion pour le consommateur, car il n'y a pas de différence dans la prononciation. Il demande donc à la micro-brasserie de changer le nom de sa bière.
Et donc qu'est-ce qu'elle répond cette brasserie, Martin ?
Eh bien, elle ne comprend pas vraiment la confusion. Son fondateur, Philippe Leceau, parle même de situation rocambolesque, car il a appelé sa bière du nom d'une rivière bretonne, la Leff donc, dans laquelle il puise l'eau pour brasser sa pression.
C'est logique.
Exactement. Par ailleurs, l'alcoolier de 64 ans qui a lancé sa bière l'été dernier pour des copains et des gens du coin, dit-il, vise une production de 1500 bouteilles par mois, 6000 litres par an, loin, très loin des 530 millions produits par InBev chaque année. Pour le patron, difficile de parler de concurrence à armes égales. Donc, il en appelle aux politiques. Devant un trust comme ça, on ne peut pas lutter. Selon lui, c'est toute la région Bretagne qui doit le défendre. Il a déjà reçu le soutien d'un politique, le député insoumis du Nord, Hugo Bernalicis, sur Twitter. Sauf que d'après un spécialiste de la propriété intellectuelle interrogé par le magazine Challenge, c'est plutôt le géant de la bière qui est dans son bon droit. On a le droit d'utiliser le terme à but descriptif, pas à titre de marque puisqu'elle a été déplosée par le groupe, explique Yann Bazir. D'autant que Philippe Le Saut a repris une identité visuelle très proche de celle de la LEF, hein, notamment avec des lettres gothiques. Une affaire qui rappelle un peu celle de la ville de L'Aïeul, hein, qui a dû lutter pendant plus de 20 ans pour récupérer le droit d'utiliser son nom, déposé par un entrepreneur peu regardant. Le géant LEF demande à une petite brasserie de changer de nom. C'est à lire sur le site de 20 minutes.
C'est une histoire qui fait de la mousse. Merci beaucoup Martin. Et évidemment, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, a fortiori à 5h16 du matin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro.fr qui nous présente une artiste très créative et instinctive. Une peintre qui monte, vu que sa toute dernière toile vient de se vendre 23 500 euros.
Ouais, alors c'est 23 500 euros. Hein. Bon, c'est pas mal, mais on est encore très très loin des dizaines de millions d'euros déboursés pour un Picasso.
Pour un Picasso, oui, mais pour un Picasso, 20 000 euros, c'est un record.
Picasso, c'est ce qu'on entend.
Ouais, parfaitement, oui. Pig, cochon en anglais.
Ah,
et pour
d'accord.
cause, Picasso n'est autre qu'une truie. 200 kilos sur
Interview
la balance.
Exclusive.
Ouais, ouais. Absolument, ouais. Je l'ai appelée cette nuit. Elle était ravie de passer sur Europe 1. 200 kilos sur la balance, donc pour Picasso, et plus de 400 tableaux au compteur, dont le dernier intitulé « Sauvage et libre », qui a fait de Picasso le cochon artiste le mieux coté de l'histoire animale. C'est très sérieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas le chemin initialement prévu pour cette truie qui va bientôt souffler sa sixième bougie. Elle devait finir, comme beaucoup de ses congénères, dans l'un des abattoirs du Cap en Afrique du Sud, mais elle doit la vie sauve à Johan Lefson, une artiste locale qui a adopté Picasso alors qu'elle n'était qu'un porcelet. Son objectif, montrer que les animaux sont des êtres intelligents et créatifs. Elle a donc appris patiemment à son cochon comment peindre, non pas avec son groin ou des pattes trempées dans de la peinture, mais avec un vrai pinceau que Picasso tient fermement dans sa gueule. Elle agite ensuite sa tête avec ivresse devant la toile, ce qui donne des formes plus ou moins précises qui répondent à son imagination du moment. Non, je vous laisserai juger. Un trait de rouge, un autre de blanc, ce n'est pas une tranche de bacon, c'est une tranche d'art signée Picasso. Et le résultat est plutôt pas mal. Hein. Il faut dire que l'artiste se donne du mal, la truie s'acharne des semaines durant devant la toile. La légende raconte qu'elle peint en extérieur, face à la mer, ou bien dans le large couloir central de la ferme où elle réside, couloir où des toiles vierges l'attendent adossées aux bottes de paille. Picasso est tellement créative, elle peint tellement de tableaux, que non loin des boxes des autres pensionnaires de la ferme, elle a ouvert sa galerie d'art sobrement intitulée « Onk ». Vous avez compris pourquoi. Son sujet de prédilection, la mer, les montagnes, les paysages pittoresques du Cap. Mais Picasso fait aussi dans l'art engagé, figurez-vous. Elle a peint récemment un portrait de Donald Trump intitulé « Grande bouche ». Une grosse tache jaune avec quelques stries marron. C'est à la fois abstrait et terriblement ressemblant. Une réussite qui va à coup sûr s'arracher très cher. Et c'est tant mieux puisque Picasso n'est pas une artiste cupide. Tous les bénéfices issus de la vente de ses toiles sont reversés en faveur de la cause animale. Picasso, la truie artiste que l'on dévore des yeux, c'est-à-dire sur le site du Figaro.
Après, on peut voir Donald Trump, on peut voir aussi des montagnes, on peut voir aussi
un coucher
de soleil.
C'est voilà. Très abstrait, c'est très Picasso finalement.
Chacun fera son idée. Merci, merci beaucoup Julien. Rideau sur le pressing, Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le sport.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce lundi, le journal permanent, Alban Le Prince.
3 janvier 2022, c'est la rentrée. Une rentrée sous Omicron, notamment dans les écoles où un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. Ce matin, un cas positif dans une classe et tous les élèves doivent se faire tester 3 fois. Les règles d'isolement changent aussi pour les personnes totalement vaccinées. Quarantaine de 7 jours en cas de contamination, quel que soit le variant. Levé au bout de 5 jours en cas de test négatif, elles ne seront en revanche plus isolées si elles sont qu'à contact. A noter que Jean Castex, le Premier ministre, réunit 10 ministres cet après-midi pour faire un point sur le variant Omicron. Un homme tué par balle hier soir à Gentilly, en région parisienne. Un autre grièvement blessé dans une rixe.
Très bon réveil à tous. Avec les initiatives en France, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Julien Brunner.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur et cofondateur d'Everride, une application lancée l'année passée qui va grandement intéresser tous les amoureux de sport de plein air et ceux qui projettent d'aller au ski lors des prochaines vacances. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement ?
Alors nous, ce qu'on propose aujourd'hui avec Everride, c'est d'acheter et de vendre son matériel outdoor de seconde main. Il y a une application mobile qui est disponible sur l'Apple Store et le Google Store. Donc vous pouvez télécharger l'application gratuitement et commercer très facilement tous vos équipements de sport pour le ski, le snowboard, le ski de randonnée, tout ce qui est verticalité avec l'escalade, l'alpinisme, l'outdoor et également le trail running.
C'est uniquement de particulier à particulier ?
Exactement. L'objectif pour nous, c'est vraiment de permettre aux gens d'échanger facilement le produit de sport qu'ils n'utilisent plus. La publication d'une annonce est gratuite sur l'application. Il n'y a aucun frais pour le vendeur et les gens peuvent échanger leurs articles. On leur fournit un paiement sécurisé et un bordereau de transport pour la livraison, ce qui permet d'échanger aujourd'hui sans aucun point de friction tous ces équipements de sport outdoor très facilement où que l'on soit en France.
Donc pour résumer, vous êtes en quelque sorte le Vinted du matériel de ski ?
Voilà, on peut effectivement résumer ça ainsi, sur un univers qui est beaucoup plus spécialisé, puisque quand on parle de matériel outdoor, on parle de produits techniques, de spécialistes, et donc on a adapté le business model sur une interface qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, où on peut chercher et catégoriser ses produits de façon adaptée par rapport à notre marché.
Ça veut dire que les fiches des articles proposés à la vente sont plus détaillées que sur d'autres plateformes de vente en ligne, comme Leboncoin par exemple ? On a plus d'informations avec vous ?
Exactement, vous avez beaucoup plus d'informations. Je vous donne un exemple, si vous cherchez des skis, on va vous demander la pratique, la largeur au patin, le type de fixation. Si vous cherchez des chaussures de ski, on va vous demander le flex, le niveau, la pratique, la durée d'utilisation. Si vous cherchez une tente, on va vous demander le nombre de personnes, un duvet, la température de confort, des chaussures de trail, la distance, le terrain pour courir. Donc on se positionne vraiment comme un spécialiste aujourd'hui sur ce marché avec une information effectivement qui est beaucoup plus précise et détaillée.
Alors imaginons que j'ai acheté l'année dernière une combinaison de ski pour mon enfant et coup classique, la combi est devenue trop petite 12 mois plus tard. Comment est-ce que je fais pour la revendre via votre application ?
Alors c'est super simple, vous allez télécharger l'application qui est gratuite, où on va vous demander de prendre 3 photos du produit, idéalement l'avant, l'arrière et puis un détail. Et ensuite on va vous poser des questions en fonction de la catégorie que vous avez choisie. Donc si vous choisissez un produit de ski, on va vous demander quel univers, on va vous demander si c'est du textile, vous allez nous indiquer que c'est une veste et à partir de ça on va vous demander si elle est doublée, si elle est en Gore-Tex, dans quel état elle est, quelle est sa couleur, quel est son prix neuf, quelle est sa marque. Vous pourrez ainsi la mettre en ligne en à peu près moins d'une minute, de façon gratuite et extrêmement simple.
Et qui définit le prix ?
Alors, c'est le vendeur qui définit le prix. Il y a une interface qui vous permet, donc on vous aiguille sur le choix du prix, parce que ce n'est pas toujours facile, effectivement, de définir le prix. Ce qu'on conseille aux gens, c'est aujourd'hui qu'on propose une fourchette, exactement. Ouais.
C'est quoi qu'il en soit bien plus avantageux que du neuf ?
Oui, alors en général, on est sur des prix entre moins 50 et moins 70% pour des produits qui, je dirais, dans 70% des cas, finalement, étaient peu utilisés. Ce qui est un gros avantage, un cercle virtueux au niveau économique et également écologique, puisque c'est un point qui est important pour nous. Mais effectivement, les prix d'achat de seconde main sont beaucoup plus avantageux que d'acheter du neuf.
Alors, votre application Everride s'inscrit dans cette tendance de la seconde main. C'est un marché en littéralement en pleine explosion.
Ouais, effectivement, on peut dire ça. C'est un marché qui se porte très très bien. Les Français notamment sont en train de changer leurs habitudes de consommation pour deux raisons, comme on vient de le dire, c'est que c'est un gain économique certain, et puis c'est aussi un geste écologique qui est effectivement aujourd'hui important, notamment pour les pratiquants d'outdoor. Et du coup, la seconde main se retrouve en fait à la jonction de ces deux besoins de la société d'aujourd'hui. Du coup, ce qui explique effectivement la croissance. Et on voit le phénomène sur plein de marchés différents, et l'outdoor en fait partie.
En parlant d'écologie, vous intervenez dans un secteur où les produits sont bien souvent difficilement recyclables. Je pense notamment au matériel de ski où il y a beaucoup de plastique, beaucoup de carbone.
Effectivement, c'est un vrai sujet pour le matériel outdoor. Aujourd'hui, on sait, suivant les études qu'on a, qu'à peu près 15% du CO2 qui est généré par la pratique de sport outdoor vient effectivement de l'équipement. Le premier poste, c'est le transport, mais le deuxième, c'est effectivement l'équipement. Et aujourd'hui, notre objectif, clairement, c'est de s'inscrire dans une démarche plus long terme où quand on ne se sert pas d'un équipement, on peut le revendre et plutôt qu'il reste dans un placard ou dans une cave, de le remettre sur le marché, de le faire circuler à des pratiquants qui, effectivement, eux, sont à la recherche d'un produit pour l'utiliser et du coup, de réduire clairement son bilan carbone. On sait aujourd'hui, par rapport aux études de l'ADEME, qu'un produit qui est remis en circulation de seconde main permet à l'utilisateur de diviser à peu près par 6 le poids carbone du produit.
Oui, ce qui n'est pas rien, effectivement. Merci beaucoup, Julien Brunner, de nous avoir présenté Everride, l'application qui propose des articles de ski et de sport de plein air, plus généralement, de seconde main, d'occasion. On vous souhaite une belle année et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup et bonne rentrée à tous.
Europe 1. Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
On va passer, j'en suis certain, une très très belle année ensemble sur Europe 1. On va battre une nouvelle fois pour toutes. On va battre une fois pour toutes ce satané virus, tout en gardant le sourire. Voilà un beau programme pour 2022. Et justement, le programme Omblin, quel est-il pour la prochaine demi-heure?
Marie Jiquel va nous emmener dans 20 minutes, nous promener dans les hautes herbes. C'est le titre d'une série policière avec l'actrice Emmanuelle De Vos dans le rôle principal.
Et puis c'est l'une des mesures entrées en vigueur en ce début d'année, la contraception qui est désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans.
Une gratuité qui n'est donc plus réservée aux jeunes filles mineures. L'assurance maladie prend en charge à 100% et sans avance de frais le coût de la contraception, c'est-à-dire certaines pilules, les stérilets ou les implants contraceptifs, mais aussi tous les actes qui y sont liés, comme la consultation annuelle d'un médecin. On en parle dans un quart d'heure avec Sarah Durocher, la coprésidente du planning familial.
Mais avant la météo, avec le retour d'Anissa Haddadi et une grande douceur pour ce lundi 3 janvier.
Oui, on a des températures vraiment très douces, hein, 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Donc ce matin, pour la reprise de l'école, pour les enfants, il ne va pas falloir trop les couvrir, surtout sur la moitié nord du pays. Parce que là, actuellement, à 5h30, on a 10 à 12 degrés en température sur toute la moitié nord du pays. Alors dans le sud, il fait un peu plus frais, forcément, il n'y a pas de nuages dans le ciel est dégagé. Donc les températures baissent un petit peu, on a 7 à 2 degrés, on a 5 par exemple du côté de Rodez sur la moitié sud. Cet après-midi, comptez 10 degrés à Grenoble, 11 à Lille, 13 à Paris, Besançon et Caen, 14 à Toulouse, 15 degrés pour Marseille, 17 à Nîmes, 20 degrés à Hendaye et 21 degrés à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce sont des températures qui ne correspondent absolument pas à un 3 janvier. Alors dans le ciel, là, on a vraiment un temps de 3 janvier, c'est-à-dire qu'on a une France coupée en deux. Sur la moitié nord, c'est très nuageux, d'où les températures très douces. Et puis une perturbation qui arrive par le nord-ouest ce matin, donc de la pluie sur la Bretagne et Pays de la Loire, et puis de la pluie sur toute la moitié nord cet après-midi. Cet après-midi, dans le sud, c'est du grand et beau soleil, vous allez pouvoir en profiter.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
À la une de ce lundi, une rentrée scolaire sous Covid avec un protocole renforcé, dépistage automatique et répété de tous les enfants d'une classe dès le premier cas positif. Tous les détails dès le début de ce journal. Parmi les nouveautés de ce début d'année, le port du masque obligatoire dès 6 ans à l'extérieur. Une mesure qui n'est pas sans conséquences sur le développement psychique et le comportement des enfants. C'est en tout cas ce qu'alertent les pédiatres. Et puis, dans ce journal, le Maroc autorise la consommation de cannabis à usage thérapeutique. Ce ne sera pas sans conséquences pour la France. C'est ce que préviennent déjà les policiers de l'Office des stupéfiants, enquête et révélation de William Molinier.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Combien seront-ils tout à l'heure au moment de franchir les portes de l'école? Normalement, 12,5 millions d'élèves devraient s'installer dans les salles de classe. Normalement, sauf qu'entre-temps, le variant Omicron s'est largement diffusé. Et si cas positif ne veut pas dire forcément malade, le nombre de contaminations explose chez les jeunes, d'où la volonté d'adapter le protocole pour éviter la grande pagaille. Plus de fermeture de classe systématique, mais une multiplication des tests de dépistage pour les élèves cas contact, Yasmina Katou.
Oui, c'est le principal changement de cette rentrée. Lorsqu'un enfant est positif, tous les élèves de sa classe devront effectuer 3 tests en 4 jours. Un premier test PCR ou antigénique à J+0. Si celui-ci est négatif, les parents iront en pharmacie pour obtenir gratuitement 2 autotests à réaliser à J+2 et J+4. L'objectif est de garder l'école ouverte dans des conditions sanitaires sécurisées au maximum, dit Jean-Michel Blanquer. Concernant les professeurs, s'ils sont vaccinés et cas contact, ils ne devront pas s'isoler. C'est la même règle que pour les enfants. Tant que les tests sont négatifs, les cours doivent être assurés. Au niveau de l'organisation générale, pour limiter au maximum les interactions, les réunions parents-professeurs devront se tenir à distance.
Un protocole d'ores et déjà dénoncé par les enseignants et les professeurs qui l'estiment insuffisant. Ils dénoncent notamment l'absence de capteurs de CO2 dans toutes les salles de cours. Le syndicat SNES-FSU a déposé un préavis de grève à partir de ce matin et pour toute la semaine dans les collèges et les lycées.
L'autre nouveauté de cette rentrée et de ce début d'année, c'est le port du masque étendu aux enfants dès 6 ans.
Ils devaient déjà le porter à l'école. Désormais, ce sera aussi dans la rue lorsqu'il est exigé pour les adultes, dans les transports en commun, les enceintes sportives et les musées, entre autres exemples. Cette généralisation du masque ne sera pas sans conséquence sur le développement des enfants, prévient la présidente du syndicat national des pédiatres, Brigitte Viret.
S'ils sont obligés de l'avoir partout, le risque, c'est un repliement sur eux-mêmes, de façon à ne pas avoir à porter le masque en permanence. Moi, j'ai l'impression, à mon cabinet, je vois des enfants qui sont effectivement beaucoup plus tristes, beaucoup plus passifs qu'ils ne l'étaient avant. On a vraiment l'impression que ce masque est une barrière.
Propos recueillis par Arthur Pereira.
Le gouvernement qui assouplit également la quarantaine pour les personnes contaminées et leurs cas contacts.
Pour les contaminés, la durée d'isolement est ramenée à 7 jours au lieu de 10. Si on est complètement vacciné, plus de quarantaine du tout en revanche pour les cas contacts à une seule condition, justifiée là aussi d'un schéma vaccinal complet.
La vaccination justement, c'est plus que jamais la stratégie de l'exécutif.
Il sert la vis d'un tour supplémentaire. À partir du 15 février, le délai pour effectuer son rappel sera ramené à 4 mois. Sinon, plus de passe sanitaire. L'objectif, c'est 1 million d'injections par semaine, dit le ministre de la Santé Olivier Véran. On en était à 400 000 jeudi dernier. À Marseille, comme dans d'autres villes, on n'en est pas encore là. On tente déjà de convaincre les récalcitrants. La stratégie du « aller vers » prend tout son sens. Des infirmiers vaccinent directement dans la rue. Reportage dans les quartiers nord, Stéphane Burgat.
Une tente, deux tables, quatre barrières installées stratégiquement ce jour-là au marché de la Joliette.
Je vous laisse ça. Sachez que nous, du coup, okay. On vaccine sans rendez-vous.
Avec ses équipes, la coordinatrice Anne Dutré-Kaiser va au-devant des passants, mais il faut souvent redoubler d'arguments.
Comme toute injection, on a un peu mal au bras.
Une petite fièvre, tu prends que le Doliprane et après ça passe.
Regardez, notre infirmière, elle est charmante.
Un café, un gâteau, j'arrive.
Bon, on verra bien.
Finalement, cet homme ne reviendra pas, à l'inverse de Maclouf qui reçoit, lui, sa toute première injection.
Je suis décidé à faire. Je suis convaincu que le vaccin, c'est la seule solution. Et on en a discuté et voilà.
Il faut dire que dans certains arrondissements, le retard de vaccination est sensible, ce qui rend cette stratégie de contact direct indispensable pour Anne Dutré-Kaiser.
Il y a vraiment une sous-vaccination dans des quartiers très populaires et sur certaines tranches d'âge, on voit vraiment un différentiel de 30% par rapport à la moyenne nationale. Il faut aller les chercher.
Et selon elle, le fait de proposer une vaccination sans rendez-vous contribue également à rattraper ce retard accumulé. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et une actualité dominée par la crise sanitaire, elle sera au menu de la réunion prévue cet après-midi à 16h à Matignon. 10 ministres seront autour du chef du gouvernement pour faire le point sur la situation et voir comment l'on peut éviter la paralysie du pays. Quant aux députés, ils examinent à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée le projet de loi sur le pass vaccinal.
Ça se passe au Maroc, mais cela aura une incidence sur le marché français du cannabis. La décision récente de Rabat de légaliser son usage à des fins thérapeutiques inquiète les autorités françaises. C'est une information que nous vous révélons ce matin, les stupes tricolores sont sur les dents.
Ah oui, avec près de 3000 tonnes par an, le Maroc est le premier producteur mondial de résine de cannabis. Celui que l'on surnomme l'or vert suscite bien des appétits, surtout depuis que le royaume en a légalisé l'usage dans un cadre thérapeutique. Et cela ne sera pas sans conséquence effectivement pour la France. C'est une information que Europe 1 vous révèle ce matin. L'Office des stupéfiants s'inquiète d'un bouleversement du marché de la drogue avec à la clé un regain de violence entre trafiquants. William Molinier.
Sur les 50 000 hectares où pousse illégalement du cannabis aujourd'hui au Maroc, il est prévu que 30% soient cultivés légalement à des fins thérapeutiques, avec une conséquence immédiate, notent les enquêteurs spécialisés français, une perte directe pour les trafiquants de drogue. Selon nos informations, l'Office anti-stupéfiants prévoit des tensions sur le marché dans les mois à venir. D'abord, à cause de difficultés d'approvisionnement, le temps que la production illégale se réorganise, le prix de la résine devrait augmenter au moins temporairement, des produits plus concentré en THC, la principale molécule active du cannabis pourrait se développer. Autre conséquence, les policiers français pensent que les violences entre groupes rivaux vont se multiplier à l'instar de ce qui a été constaté lors de la crise sanitaire en 2020, où les règlements de compte entre dealers avaient augmenté de près de 50%. Enfin, des groupes criminels pourraient aussi investir cette fois-ci le champ légal du cannabis thérapeutique avec l'arrivée d'investisseurs étrangers prévus dans la vallée du Rif. Ce même phénomène a déjà été observé en Argentine, le pays qui a légalisé il y a un an l'autoculture de cannabis à usage médical.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, la Maison-Blanche assure l'Ukraine de son soutien. Si la Russie tente une action militaire, nous répondrons énergiquement. C'est ce qu'a dit le président Joe Biden à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.
C'est une tradition qui se perd, mais qui existe toujours, les étrennes.
À peine un Français sur cinq qui reste fidèle, Julien. De quoi parle-t-on ? Eh bien de ce billet de 5, 10 ou 20 euros, voire plus, que l'on donne à son gardien d'immeuble ou son concierge. Siam Spencer est allé à leur rencontre. Reportage.
Il y a déjà le 13e mois et puis il y a les fameuses étrennes.
Slavika est gardienne d'un immeuble cossu dans le 13e arrondissement de Paris. D'habitude, elle est gâtée pour les étrennes, mais au fur et à mesure des années, la tradition s'étiole.
Ça tarde un petit peu. J'ai eu 3-4 personnes qui se sont présentées, donc qui m'ont remerciée. Ça reste quand même une tradition, disons. Elle est peut-être en train de se perdre, mais il y a les gens qui ont la conscience qu'il faut gratifier leur gardienne parce qu'elle leur rend quand même pas mal de services.
Et parmi les 40 résidents de l'immeuble de Slavika, la moitié suit encore cette tradition. Mais pour d'autres gardiennes, ces étrennes sont réellement menacées. C'est le cas selon Paula, qui travaille dans une résidence du 20e arrondissement de Paris.
Ça dépend les gens, c'est pas tous pareil en fait. Il y en a qui sont généreux, il y en a qui n'en ont pas. Et s'il y en a que deux personnes qui sont généreuses, le reste c'est fini.
Et un peu comme un pourboire, ces étrennes offrent aux gardiens d'immeuble en moyenne 6 à 900 euros pour le gardiennage d'une petite copropriété.
Le football avec la qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France de Marseille et Saint-Etienne. La suite des 16e de finale aujourd'hui. Vannes reçoit le PSG sans Lionel Messi, forfait pour cause de Covid, et Lens accueille Lille.
C'était le journal complet de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction l'hippodrome de Pau pour un Quintet Plus. Une course de haies handicap sur les haies avec 15 partants et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 12 ayant déclaré forfait. J'ai choisi comme favori le numéro 9, Dilly Dancer, qui reste sur une excellente deuxième place sur ce tracé le 12 décembre, alors qu'il effectuait ce jour-là une rentrée après un an d'absence, et à la faveur de quelques progrès attendus, il devrait pouvoir, dès cet après-midi, renouer avec la victoire. L'opposition sera constituée par les numéros 4, Garbure, une jument douée aussi à l'aise en haie qu'en stiple, 3, Deo Gracias, deuxième de cette même épreuve il y a 2 ans et qui connaît cette piste paloise sur le bout de ses sabots, et 8, Boy Royal, dont la dernière course à Angers, où il effectuait sa rentrée le 28 novembre, n'est vraiment pas passée inaperçue. Enfin, les numéros 6, Saint-Anjou, 1, Zizaneur, 13, Goutte de Thé et 5, Fence, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 4, 3, 8, 6, As, 13 et 5.
9, 4, 3, 8, 6.
As, 13 et 5.
Exactement, des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où, à 5h40 sur Europe 1, les grands faits historiques racontés à travers nos archives.
L'euro, la monnaie européenne, fête ses 20 ans. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euros arrivaient dans les poches des citoyens des 12 premiers pays européens à l'avoir adopté. On revient avec vous Pauline sur cette naissance et la découverte de cette toute nouvelle monnaie.
L'euro devient donc ce petit bout d'Europe entre nos mains, selon la formule de Romano Prodi, le président de la Commission européenne à l'époque. Mais avant le symbole, l'euro, le 1er janvier 2002, c'est surtout un petit casse-tête pour beaucoup de Français, de commerçants et notamment de boulangères.
Voilà, j'en mets partout. Des petits pense-bêtes. Bon, bah, les gens ne les voient pas, mais moi, je sais à quoi ça correspond. Moi, j'en ai collé à côté de ma caisse avec le prix du franc converti en euros, le prix de ma viennoiserie, le prix de mes baguettes.
Je mettrai ma vendeuse de l'autre côté, elle me choisit des articles et on fera des exercices, en fin de compte, comme ça, sur le tas.
1 euro égale 6 francs 55 957 centimes. Tout le monde tente sa chance en calculant de tête, mais ce n'est pas évident, même pour le Premier ministre Lionel Jospin en janvier 2002.
Lionel a acheté des roses pour Sylviane et pour Annick Le Petit, maire de l'arrondissement. Le Premier ministre a évidemment expliqué qu'il était ravi de conduire le gouvernement qui passait à l'euro, mais en achetant un pain de seigle, il s'est quand même un petit peu planté.
Guillaume Durand à la présentation sur Europe 1 et Lionel Jospin donc à la caisse de sa boulangerie.
Vous avez du pain complet ?
Du seigle, oui, c'est bien.
Alors, voilà, 7.
Ben vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez.
Ah non, non, c'est ça.
Ah,
non,
oui,
c'est
oui. Pas ça, ah oui, oui, bien sûr. Oui, évidemment, je suis bête, moi.
Quelques petits couacs au début, mais les Français vont petit à petit s'habituer à leur nouvelle monnaie.
Et le passage du franc à l'euro, Pauline, se passe finalement plutôt bien.
Oui, Laurent Fabius, ministre de l'économie, s'autorise même une petite blague chez Jean-Pierre Elkabbach en janvier 2002.
Si c'est pas une plaisanterie un peu osée matinalement, c'est un franc succès.
Humeur badine qui ne lui fait pas oublier son message principal. Après le franc qui a été dévalué 20 fois depuis les années 50, l'euro apporte stabilité, confiance et avenir à tous les pays de la zone.
Une monnaie
qui représente plus de 300 millions de personnes qui ont le premier pouvoir d'achat dans le monde, c'est plus fort, évidemment, qu'une monnaie qui ne représente que 60 millions de personnes.
La monnaie unique était un projet européen de longue date, Pauline.
Évoqué pour la première fois en 1969, le projet d'union économique et monétaire est porté par Jacques Delors en 88. À ce moment-là, dit-il, l'Europe est en pleine stagnation.
J'ai proposé un grand marché unique pour 1992, un changement du traité, des politiques communes. Et c'est parce que la confiance est revenue en Europe qu'il a été possible de commencer à étudier l'union économique et monétaire.
Non sans difficulté, évidemment, l'opinion publique allemande était très attachée au Deutschmark, sa monnaie forte. Il a donc fallu convaincre.
Il y aura donc une concurrence satisfaisante qui fera, à mon avis, baisser les prix. Il y aura des possibilités de comparaison pour le consommateur. Les épargnants auront plus de choix.
L'euro est aujourd'hui le symbole de la liberté de circulation en Europe et la monnaie utilisée tous les jours dans 19 pays par 340 millions d'habitants.
Merci beaucoup Pauline Jacquot, c'était le jour où. Il est 5h43 dans un instant. La contraception désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1 et très belle année 2022 en notre compagnie. Il est 5h44 très précisément. La mesure est entrée en vigueur samedi, le 1er janvier 2022. Toutes les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans peuvent désormais avoir accès gratuitement à la contraception. On en parle ce matin, Omblin, avec la coprésidente du planning familial.
Bonjour Sarah Durocher.
Bonjour.
Jusqu'à présent, seuls les mineurs bénéficiaient d'un accès gratuit à la contraception, en plus du remboursement de la pilule dans son intégralité. L'assurance maladie prend également en charge à 100% une consultation annuelle avec un médecin ou une sage-femme, les examens biologiques éventuels liés à la prescription d'un moyen de contraception. Alors on parle de la pilule de première et deuxième génération, mais cela concerne aussi les implants contraceptifs, les stérilets, les diaphragmes et la contraception d'urgence hormonale. C'est une avancée, j'ai envie de demander, une avancée suffisante pour vous?
Alors, c'est une avancée parce que tout ce qui peut améliorer l'accès à la contraception, la loi sur la contraception, c'est des avancées. Par contre, pour nous, c'est pas satisfaisant, dans le sens où le planning aujourd'hui revendique vraiment le remboursement total des moyens de contraception. Et vous l'avez bien cité au départ, on aurait aimé dire l'ensemble des moyens de contraception, ce qui n'est pas le cas. Et ce que nous, on peut observer, c'est que tout simplement, il peut y avoir des ruptures de parcours contraceptif pour ces raisons-là, pour ces raisons financières et pour des contraceptions qui ne sont pas remboursées. Donc nous, on aurait aimé tout simplement que l'ensemble des moyens de contraception soient remboursés et également aussi que ça soit accompagné d'une campagne parce que c'est bien de sortir des lois, de faire des avancées, mais il faut que les personnes concernées soient au courant et ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel.
L'âge, les moins de 25 ans, vous le comprenez aussi, aurait-il fallu aller plus loin ? 30 ans, 35 ans, pas de limite d'âge du tout. Si on parle de précarité financière, justement, la limite d'âge n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin.
Alors, pour nous, ce n'est pas satisfaisant dans le sens où nous, on est pour que la contraception soit remboursée pour tout le monde, sans limite d'âge, parce que la précarité, on le sait, ne s'arrête pas forcément à 25 ans. Après, on entend l'argument, en effet, que la période 18-25 ans, qui peut être une période un peu compliquée financièrement et qui précarise encore plus les personnes. Ça, c'est vrai que ça peut être révélateur d'une réalité. Par contre, ce n'est pas satisfaisant, puisqu'après 25 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'en effet, si on voulait aller plus loin et si on voulait avancer à ce sujet-là, c'était le remboursement de tous les moyens de contraception et pour toutes les femmes.
Qu'en est-il justement de la désaffection des femmes ces dernières années pour une méthode de contraception hormonale? Cette mesure, si on doit étendre à toutes les contraceptions, ça ne règle pas le problème. Si elles ne veulent pas prendre la pilule, ce n'est pas d'étendre là jusqu'à 25 ans qui va le régler.
Un des axes importants, c'est que les femmes soient informées de leurs droits et qu'elles soient au courant de l'ensemble des moyens des contraceptions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a deux leviers pour ça. C'est déjà renforcer l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Ça veut dire parler de contraception et ça, c'est quelque chose qui fait partie du plaidoyer du planning fortement, hein, mais que ça soit sur les questions de l'avortement, sur les questions de contraception et sur les questions des violences. Je pense en effet que l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge et toute la vie, c'est quelque chose qui est essentiel. Et le deuxième levier, c'est la formation. C'est la formation des pharmaciens, la formation des professionnels de santé, puisqu'il faut en effet que les professionnels se saisissent de ça pour que les personnes concernées aient accès. On y arrivera à partir de ce moment-là, ça veut dire que nous, le planning, on est pour que les femmes aient accès à l'ensemble des moyens de contraception, quel que soit leur choix, qu'elle soit hormonale ou pas, quel que soit l'âge des personnes. Et là-dessus, il y a encore du travail.
Il y a aussi encore, vous le dites, du travail sur l'éducation sexuelle d'une manière large, dispensée aux jeunes, dans les collèges, les lycées, les femmes, mais aussi les jeunes hommes. Ce qu'on comprend avec cette mesure, c'est que la contraception reste une affaire de femmes. La contraception masculine n'est toujours pas à l'ordre du jour. Vous le déplorez un petit peu quand même.
Tout à fait. Une des choses aussi qu'on demande, c'est une campagne nationale inclusive sur les questions de contraception. Ça veut dire qu'il s'adressait aux femmes et aux hommes, parce qu'aujourd'hui, vous avez raison de le dire, il existe de la contraception masculine, et ça passe encore une fois par l'information, et on pense que c'est nécessaire qu'il y ait une information nationale, une campagne nationale, qui s'adresse à toutes et tous, pour parler de contraception, puisque ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de campagne nationale, et c'est important que chacun et chacune puisse s'en saisir.
Quant à l'absence de médecins, c'est aussi un sujet. Les déserts médicaux, selon vous, l'ordonnance pour obtenir une pilule contraceptive, est-ce que ça reste nécessaire?
Nous, le planning, on est sur une position à faciliter l'accès et à vraiment alléger le parcours, que ce soit sur les questions d'avortement ou sur les questions de contraception. Je pense qu'aujourd'hui, on a des nouvelles professions comme les pharmaciens qui travaillent de plus en plus sur les questions de contraception. On parle de renouvellement de contraceptifs en pharmacie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des avancées possibles, il y a des choses possibles. Il y a des expériences qui se font sur certains territoires pour faciliter l'accès et son renouvellement à la contraception. Je crois qu'il y a des choses à faire là-dessus. En tout cas, le planning sera partie prenante à ce sujet-là.
Merci beaucoup, Sarah Durocher, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la coprésidente du planning familial. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de l'actualité à 6h10 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
Et comment va se passer la rentrée scolaire ce matin? C'est la question alors qu'un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. Un cas de Covid dans une classe et tous les élèves doivent se faire tester 3 fois. Dans les collèges et lycées, le principal syndicat d'enseignants, le SNES FSU, a déposé un préavis de grève pour toute la semaine. Il estime que les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes. Dès aujourd'hui, de nouvelles règles d'isolement s'applique. D'ailleurs, les personnes totalement vaccinées ne devront plus s'isoler si elles sont considérées comme cas contact. Ce sera 7 jours en revanche si elles sont contaminées, 5 en cas de test négatif. Par ailleurs, Jean Castex, chef du gouvernement, réunit 10 ministres cet après-midi. Ils feront un point sur le variant Omicron et veilleront à ce que les services publics puissent continuer de fonctionner, notamment les hôpitaux.
Merci de commencer 2022 avec nous sur Europe 1. On est ravis de vous accompagner de bon matin avec à présent notre page culture et cette question. Quelle série regarder pour bien démarrer l'année?
Eh bien, on voit cela tout de suite avec vous, Marie Jiquel. Bonjour.
Bonjour, Omblin. Bonjour, Julien.
Bonjour, Marie. Alors, ce matin, vous nous emmenez dans les Hautes Herbes, non pas pour chasser des Pokémon, mais pour percer les secrets d'un village, parce que les Hautes Herbes, c'est le titre de cette série policière diffusée sur Arte. Série qui joue, Marie, sur un contraste, la noirceur de vieilles rancœurs dans un cadre qui sent bon les arbres fruitiers et les grandes vacances.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mounir Sefraoui. Laissez un message.
Je voudrais signaler une disparition auprès de la gendarmerie.
Vous connaissez quelqu'un qui a disparu?
Non, c'est un jeune homme de passage que j'ai rencontré par hasard. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré.
Mais c'est quoi encore si ça? Il faut pas cesser de tyranniser.
Tout le monde parle que de ça, alors que tu as parlé 3 minutes dans ta vie.
Personne l'a revu.
Alors les gens commencent à raconter n'importe quoi. Tout le monde est parano en ce moment.
Ici, c'est insupportable. Il y aura toujours des gens pour nous voir et on me demandera pourquoi je vous parle.
Vous sentez cette ambiance petit village. Les décors ont un recto de carte postale. Les environs de la ville de Tours, collines verdoyantes et champs à perte de vue. Le verso fait beaucoup moins envie. Dans ce paysage apaisant, un jeune homme disparaît. Alors Eve, une des habitantes, va mener sa propre enquête pour le retrouver. Eve, interprétée par Emmanuel DeVos.
Je trouvais l'idée géniale de faire une sorte de thriller, film d'enquête comme ça, dans un milieu rural, de gens dont on ne parle pas souvent. Voilà, c'est ni dans une grande ville, ni en banlieue, voilà. Et je trouvais que c'était une bonne idée d'installer comme ça une sorte de mystère, de corps qui disparaissent dans cette campagne-là.
Ambiance vieux café, rumeurs et rancunes. Et pour ne pas déranger tout ce milieu fermé, la caméra se fait discrète. On a presque l'impression qu'elle se cache. Elle se place en réalité à hauteur d'enfant, devenant le regard de Jules, l'un des autres personnages principaux de la série. Un garçon d'une dizaine d'années, propulsé dans cette campagne après l'accident de sa mère. C'est le premier spectateur de ce Cluedo vivant, confident des tourments et témoin des nouvelles relations qui se nouent.
Alors vous parlez de Cluedo, Marie, c'est plutôt un Cluedo de gens sympas, il n'y a pas de caricature.
Non, alors on devine qu'il y a eu des disputes entre eux, qu'ils ont des failles, mais tous les personnages sont attachants. Il y a le jeune couple gentil, le bon copain peut-être en l'air, la gendarme touchante. Alors où a disparu le jeune homme qui a fait le coup? Personne ne le voit venir, pas même Emmanuel De Vos.
Je ne me souviens pas d'avoir deviné, on soupçonne un peu tout le monde, ce qui est très bien.
Voilà, les Hautes Herbes, c'est une ambiance pesante et mystérieuse. Un suspense diffus sous un grand soleil d'été.
Ça a eu lieu, oui, autour de Tours. Autour de Tours. Alors, ce qui était amusant, c'est que c'était fin août, septembre, et il faisait très chaud encore. Et il y avait vraiment une atmosphère un peu poisseuse qu'on n'imagine pas vraiment dans cette région. Et ça allait très très bien avec cette histoire. C'était assez étonnant.
Et derrière la caméra, il y a le réalisateur Jérôme Bonnel qui avait réalisé le film À Trois, on y va, mais aussi Cher Léa qui est à l'affiche en ce moment.
Il réalise une série pour la première fois et ça marche, hein, ça roule. Les acteurs sont tous excellents, y compris ce garçon Antonin Chaussois qui n'a pas beaucoup de texte, mais son jeu est assez bluffant. Il y a des comédiens que l'on découvre et que l'on a hâte de revoir sur grand ou petit écran, comme Louise Chevillotte. Un an après, En Thérapie, Arte mise sur cette série de 3 épisodes, 3 heures au total d'immersion dans ce village tension. Je vous recommande vivement ce séjour dans les Hautes Herbes.
Et le premier épisode sera diffusé jeudi soir sur Arte, des épisodes déjà disponibles sur arte.tv.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant sur Europe 1, la météo, le journal, et un risque pris très au sérieux.
Celui d'un pays à l'arrêt, en arrêt maladie on pourrait dire, paralysé par la 5e vague mêlant Delta et le très contagieux Omicron. Il faut dire qu'avec plus de 200 000 contaminations chaque jour, c'est l'équivalent de la population de Lille qui doit s'isoler pendant une semaine. Il y a donc un réel risque de désorganisation de la société. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, les règles concernant les contaminations et les cas contacts évoluent. Ceux qui ont un schéma vaccinal complet, en ce qui concerne les cas contacts, peuvent continuer leurs activités. Et c'est aussi ce lundi que le télétravail 3 à 4 jours par semaine devient obligatoire. Autant de sujets qu'on va aborder dans une dizaine de minutes avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
Il n'avait pas encore 30 ans, il était au sommet de la gloire et il se chantait lui-même au passé.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile. J'ai 73 ans.
Le chanteur Michel Delpech au milieu des années 70, le récit dans 20 minutes.
La météo avec vous, Anissa Haddadi, et aujourd'hui une grande différence entre nord et sud.
Oui, alors la frontière, elle est simple. Vous allez tirer
c'est toujours
une
ligne. La
Loire. Alors non, c'est un petit peu plus en dessous. D'accord. Cette fois-ci, vous allez tirer une ligne qui va de Bordeaux jusqu'à Besançon à peu près, voilà, entre la Gironde et la Franche-Comté en passant par l'Auvergne. Au nord de cette ligne ce matin, on a un ciel très couvert. On a d'ailleurs déjà de la pluie parce qu'on a une perturbation là qui arrive par le nord-ouest. On a déjà de la pluie ce matin sur le golfe du Morbihan. On a de la pluie en Mayenne, dans la Sarthe. On a des petites averses aussi du côté de la Moselle, dans le Doubs, voilà, dans toutes ces régions. Pensez à prendre votre parapluie. Alors, ce ne sont pas des grandes pluies, mais des petites averses. Cet après-midi, les pluies vont toucher toute la moitié nord du pays, avec de fortes rafales de vent aussi, hein, sur les côtes de la Manche. Dans le sud, bah, vous le disiez, Julien, on a une grande différence. Hein, donc là, on a un ciel complètement dégagé, avec des températures un petit peu plus fraîches ce matin. Et surtout, de belles périodes ensoleillées toute la journée entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes. Alors, côté température, c'est plus frais aussi. Sud, je vous le disais, 1 degré à Lyon ce matin, 6 à Toulouse, 9 à Lille et Strasbourg, 11 à Paris et Rennes, 12 à La Rochelle. Cet après-midi, grande douceur, 10 degrés à Annecy, 12 à Brest et Belfort, 13 à Paris et Lyon, 18 à Biarritz, 21 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Attention, ne rangez pas trop vite les gros manteaux. Gros froid qui arrive, froid polaire entre mardi et mercredi.
Oui, merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1, très belle année à tous. Nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Et il est 6h. L'école face au défi Omicron. Pendant les vacances, le variant ultra contagieux est devenu majoritaire en France. Pourtant, 80% des écoles n'ont toujours pas de capteur de CO2. Les explications de Louis Salé dans un instant. La vague Omicron sera-t-elle la dernière de l'épidémie? C'est l'hypothèse soutenue par Olivier Véran. L'autre arme du gouvernement, c'est le pass vaccinal. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis, moins de déchets au quotidien, c'est l'objectif de la loi anti-gaspi, entrée en vigueur ce samedi. La mesure phare, interdire la destruction des invendus non alimentaires. Une bonne action pour la planète et pour le portefeuille des entreprises.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Il risque de chahuter la rentrée scolaire. Son nom, Omicron, un variant qui pourrait être responsable, selon le conseil scientifique, de l'absence d'un tiers des enseignants en France. 12 millions d'élèves sont de retour en classe ce matin avec un nouveau protocole. Si un cas positif est détecté, alors tous ses camarades devront présenter 3 tests négatifs, dépister donc et aérer les salles. Voilà l'autre barrière face aux variants. À peine 20% des écoles sont pourtant équipées de capteurs de CO2. Le gouvernement a promis 20 millions d'euros d'aide aux collectivités. Louis Salé.
C'est 35 000 euros pour un mérite patient. On avait entendu parler d'une somme qui était allouée justement à la mise en place de ces capteurs, mais nous n'avons aucune nouvelle concernant les modalités d'accès à ces subventions.
Ivana Polizini est adjointe au maire de Bastia, chargée de l'éducation. Ces capteurs de CO2 sont aussi la hantise de la maire de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, Marilyn Pichery. Elle ne peut pas se permettre d'installer des capteurs dans chaque classe, chacun de ces dispositifs coûtant plus d'une centaine d'euros.
Il y a eu effectivement 20 millions d'euros d'aide qui ont été énoncés par le gouvernement à l'automne, et le montant de l'aide n'est pas suffisant, 50 euros par capteur.
Résultat, des professeurs impuissants pour affronter Omicron et délaissés par des autorités qui ne s'entendent pas. Sophie Venetite est secrétaire générale d'un syndicat enseignant du secondaire.
Collectivités territoriales et États se renvoient la balle en se disant à chaque fois que c'est à l'autre de faire. Et pendant ce temps-là, nous, on est au milieu de ce jeu de ping-pong et les jours passent, les mois passent sans que la qualité de l'air ne soit améliorée.
Pas de capteur pour cette rentrée, ni de système de ventilation, de purification ou de recyclage de l'air. Seules des fenêtres ouvertes serviront de rempart aux variants.
Les précisions pour Europe 1 de Louis Salé. Et si les capteurs de CO2 sont présents dans seulement 20% des écoles, ils sont en revanche dans 40% des collèges et environ la moitié des lycées.
Et à noter que le SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, a déposé un préavis de grève pour cette première semaine de rentrée. Ses représentants réclament davantage de mesures pour protéger les élèves.
Face au variant Omicron, réunion à 16h autour de Jean Castex, le Premier ministre reçoit 10 ministres pour faire le point sur la continuité des services public.
Et parmi eux, Olivier Véran, le ministre de la Santé, cette vague pourrait être la dernière de l'épidémie. C'est en tout cas une hypothèse esquissée hier dans le journal du dimanche. Un variant tellement contagieux, je cite, qu'il pourrait entraîner une immunité renforcée. Philippe Amouyel, épidémiologiste, reste sceptique.
On dit en général qu'il faut à peu près 5 à 10% de la population non vaccinée pour faire une vague. Je vous rappelle qu'on a encore 5 600 000 Français qui ne sont pas vaccinés. On a 8 millions d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Donc on peut avoir encore de nouveaux variants. Ce qu'on peut dire essentiellement, c'est que avec le variant Omicron, de plus en plus de gens qui ne sont pas vaccinés risquent d'être contaminés et éventuellement de développer une immunité naturelle malgré eux. Ça veut dire que le virus, quel qu'il soit, le nouveau, aura quand même beaucoup plus de difficultés à avoir la circulation qu'on observe actuellement avec ce variant Omicron. Maintenant, à quand fixer l'échéance si on considère qu'il faut que l'ensemble de la population soit immunisée, soit de manière naturelle par l'infection, soit de manière médicale par la vaccination, on peut penser qu'aux alentours de l'été, on devrait avoir une grande partie de la population immunisée.
Le professeur Philippe Amouyel, joint par Yasmine Akatou.
Et la vaccination, justement, avec un changement, notez-le bien, dans le calendrier. À partir du 15 février, vous n'aurez plus que 4 mois pour recevoir votre dose de rappel.
Et ce sera même la condition pour conserver son pass sanitaire, bientôt transformé en pass vaccinal. Le texte est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avant le Sénat, mercredi. Le gouvernement mise sur une adoption avant la mi-janvier, un calendrier accéléré qui n'est pas du tout celui de l'opposition, Alexis de La Fontaine.
Oui, à commencer par la France insoumise. Le groupe de Jean-Luc Mélenchon utilisera sa niche parlementaire, c'est-à-dire ce moment où il peut imposer un vote sur un de ses projets de loi. Le but, selon eux, mettre fin au plein pouvoir sanitaire du président et annuler les différents passes. Les députés insoumis ont bien l'intention de se faire entendre en déposant plusieurs amendements afin de ralentir ou d'obstruer les débats sur ce pass vaccinal. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et Sébastien Chenu voteront contre ce projet de loi. La candidate à la présidence estime estime qu'il rogne les libertés des Français et pousse à un enfermement des non-vaccinés. Les Républicains sont très divisés sur la question. Le groupe LR présentera à 16h ses propres mesures. Enfin, les socialistes voteront pour le pass vaccinal. Ils ne voulaient pas entendre parler de ce pass dans les entreprises, mais la mesure ne figurant plus dans le projet de loi, ils en sont donc satisfaits.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Des records de contamination en France, en Europe et aux États-Unis. 400 000 nouveaux cas par jour outre-Atlantique. Une hausse presque verticale et sans précédent selon le principal conseiller de la Maison-Blanche.
Et freiner la propagation du virus, ce sera d'ailleurs le défi du nouveau maire de New York. Il a prêté serment à Times Square samedi, quelques minutes seulement après la nouvelle année, dans une ville sonnée par la pandémie. Alexis Guilleux.
Oui, des lignes de métro arrêtées, des spectacles de Broadway annulés. New York vit au ralenti depuis deux semaines. La ville recense des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour. Mais pour Eric Adams, pas question de mettre en place de nouvelles restrictions.
Malgré la persistance du Covid-19, New York n'est pas fermée. La ville reste ouverte et vivante. 2022 n'est pas 2020. Avec les vaccins, les tests et les traitements, nous avons les outils pour vivre avec ce virus et rester en bonne santé si nous faisons tous notre part pour assurer la sécurité de chacun.
Car la pandémie n'est pas la seule priorité d'Eric Adams. Il sera également très attendu sur la lutte contre la criminalité et sur la reprise économique. À New York, le taux de chômage est deux fois plus important que dans le reste du pays.
Il faut remettre les New-Yorkais au travail en arrêtant notre relation conflictuelle avec le monde des affaires. C'est une ville qui est difficile pour les entreprises.
Proche des milieux d'affaires, Eric Adams a déjà promis de faire de New York la capitale des crypto-monnaies et souhaite que la ville soit à nouveau, selon ses mots, le centre de l'univers.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York.
Cela fait partie des nouveautés de ce début d'année. L'entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage finit donc le plastique à usage unique pour les fruits et légumes et la destruction des invendus non alimentaires.
Et cela concerne par exemple les vêtements, les produits d'hygiène ou même l'électronique. Les entreprises devront désormais recycler ou bien donner ces produits. Un geste pour la planète et pour leur portefeuille aussi. Les explications d'Aurélien Fleureau.
Selon les toutes dernières estimations de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, la valeur marchande des invendus non alimentaires en France est évaluée à 4,3 milliards d'euros par an, dont 7% ont été détruits, ce qui représente 300 millions d'euros de produits jetés à la poubelle. Il y avait donc urgence, et si c'est bon pour l'environnement, ça l'est aussi pour les finances des entreprises qui s'y mettent, comme l'explique Pierre-Yves Pasquier, président de Comerso, une plateforme d'accompagnement dont les 1300 clients ont économisé au total 38 millions d'euros l'an dernier.
Quand vous allez valoriser vos invendus, vous n'allez plus les jeter, donc vous allez vous affranchir du coût de destruction de ces produits, mais surtout vous allez récupérer la valeur de cette marchandise. Notamment quand vous faites du don aux associations, il y a un avantage fiscal de 60% de la valeur des produits. En étant anti-gaspi, c'est tout à fait aussi compatible avec une performance économique.
Decathlon, L'Oréal, Obad ou encore les chaussures Besson figurent parmi les entreprises qui ont déjà mis en place leur stratégie de recyclage ou de don aux associations avec Comerso. Après une petite phase de tolérance, les entreprises pourront être sanctionnées. 15 000 euros d'amende à chaque infraction constatée.
Aurélien Fleureau.
Et merci beaucoup Romain Hoquet pour ce journal.
6h08, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec la Coupe de France. Marseille qui a tenu son rang hier.
Oui, les Marseillais ont battu les amateurs de Chauvigny 3-0. L'OM qui alignait quasiment son équipe type. La marche était donc beaucoup trop haute pour les Chauvinois selon le gardien Julien Caillot.
C'était quand même la fête pour le football chauvinois. Mais il faut dire ce qui est, là il y avait une marche, c'était l'Everest. On avait réussi à gravir, on va dire, les Alpes sur les précédents tours, mais là c'était vraiment la classe au-dessus.
Dans les autres matchs de ces 16e de finale, la surprise est venue de Nancy, tombeur de Rennes au tir au but, qualification aussi de Bastia, vainqueur de Clermont. Et puis à noter que les nouveaux petits poussés de cette Coupe de France sont Bergerac et Versailles, tous deux pensionnaires de 4e division.
Ce soir c'est la rentrée du PSG, Martin.
Oui, les Parisiens se déplacent à Vannes, toujours pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Messi est absent pour cause de Covid, Neymar est resté au Brésil, mais malgré ses défections et les nouvelles jauges, le président Vannes et Maxime s'attend à une belle soirée.
Forcément, on est déçus. Pour nous, ça aurait été exceptionnel d'avoir ce stade à 9600 places remplies. Bon, maintenant, on a la possibilité de jouer devant notre public, même réduit, c'est déjà une satisfaction.
Maxime Rey dans Europe 1 Sport hier soir. Enfin, le dernier match de ces 16e sera un derby puisque Lens reçoit Lille à 21h.
On passe au handball, Martin, avec enfin des bonnes nouvelles pour les Bleus.
Oui, de nouveau regroupés depuis hier, après avoir passé le nouvel an en famille, les Bleus ne déplorent qu'un seul cas de Covid, le jeune Théo Monard. Ils vont donc pouvoir préparer sereinement l'Euro qui débute dans 10 jours en Hongrie. Philippe Bana, le président de la Fédération française, se félicite des mesures mises en place pour éviter un cluster.
Le moment est un peu difficile, mais on s'est rendu compte qu'avec toutes les barrières qu'on avait mises en place
avant de rentrer dans la bulle équipe de France, qui est devenue une bulle béton. Ça nous a permis d'éviter les catastrophes. Et aujourd'hui, c'est pas ça qui va faire trembler l'ombre.
Un euro auquel ne participera pas Elohim Prandi, le joueur du PSG gravement blessé après une agression au couteau lors du réveillon.
Enfin, en bref, Martin.
Du rugby et le choc du top 14 pour Lyon. Les Rodanais ont battu le Racing hier et puis enfin le Dakar. Et c'en est déjà fini des rêves d'un 15e sacre pour Stéphane Peterhansel, accidenté hier lors de la première spéciale.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, cette question. Comment éviter la paralysie du pays avec plus de 200 000 contaminations au Covid chaque jour? Comment s'organisent les entreprises face à ce mur d'arrêt de travail? Eh bien, on en parle dans un instant avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est le vice-président de l'Association nationale des DRH, les directeurs de ressources humaines.
Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, alors qu'entre en vigueur de nouvelles règles sanitaires pour contrer la cinquième vague, notamment concernant la durée d'isolement, ramenée de 7 à voire 5 jours pour les personnes infectées au parcours vaccinal complet. Quant au cas contact, ceux qui sont vaccinés peuvent dès aujourd'hui continuer leur activité comme aller au travail à condition de faire des tests réguliers. Ce sont des mesures qui, j'imagine, vous soulagent ?
Ah bah c'est sûr, ça va être un petit peu plus simple, parce que ce qui nous inquiétait, c'était plus des cas contacts. Les cas contacts, d'abord, ils sont a priori pas malades, enfin on le souhaite pour eux. Et puis, ça pouvait faire très vite beaucoup de monde, notamment lorsque vous avez un service avec une personne contaminée au milieu, vous aviez tout le service qui était cas contact.
C'était une demande de votre part, cette mesure concernant les cas contacts ?
C'est difficile de dire que c'est une demande parce que c'est une affaire sanitaire. Nous, on attendait les décisions. On avait alerté sur le fait qu'effectivement, ce qui était prévu pour les cas contacts pouvait générer, avec des taux de contamination à 200 000 personnes par jour, près de 2 millions de personnes absentes. Donc on avait indiqué que dans l'hypothèse où sur un plan sanitaire c'était possible, ce serait bien de réviser le schéma de protection des cas contacts.
Alors à cela, il faut rajouter les 200 000 contaminations chaque jour, c'est ce qu'on a en ce moment, c'est l'équivalent de la population de Lille pour donner un exemple. C'est un vrai risque de désorganisation, de paralysie dans les entreprises ?
Alors de paralysie, j'irai pas jusque là, quoique, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est un vrai de désorganisation parce que ce sont des absences imprévisibles par nature et qui peuvent malheureusement pour certaines durer très longtemps. Par conséquent, ça peut créer des problèmes d'organisation et puis ça crée une ambiance un peu d'inquiétude quand même. Même si on a appris un peu à vivre avec le virus, les gens restent assez inquiets. Quand vous avez 200 000 contaminations, ça peut dire que les familles peuvent l'être, les parents peuvent l'être. Donc c'est tout ça, ça crée des conditions un petit peu compliquées.
Mais comment faire fonctionner la boutique face à tant d'absences ? Comment faire les plannings quand dans un service de 10 personnes, vous en avez 4 qui sont contaminés ou qui doivent rester à la maison parce que l'enfant est malade ?
Ah, ça c'est sûr que c'est la partie la plus compliquée de l'histoire, puisque alors, vous ne vivez pas forcément en modèle dégradé, c'est-à-dire en disant je vais moins produire ou je vais moins ceci, mais vous essayez d'abord, quand vous le pouvez, de mettre un peu plus de monde que prévu sur les plannings pour pouvoir ne pas être surpris. D'autre part, quelquefois, vous réduisez un peu votre production de manière à pouvoir faire face à un modèle d'absence important. Mais c'est certain que la grande difficulté, c'est tout à l'heure, le problème de ces situations-là, c'est que c'est pas prévisible et on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc ça fait effectivement deux raisons d'avoir des plannings qui sont modifiés quasiment tous les jours quand vous avez taux de contamination pareil.
Alors, autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, le télétravail obligatoire, 3 à 4 jours par semaine quand c'est possible, pour reprendre les mots de Jean Castex. Vous êtes prêt ?
Alors, vous allez avoir deux types d'entreprises. Vous avez celle dans laquelle je suis qui pratique du télétravail 2 jours par semaine depuis déjà plusieurs mois. Et par conséquent, ça fait rajouter une journée, donc c'est pas non plus totalement impossible parce qu'on est déjà en mode hybride. Et puis celles qui n'en font pas du tout. Et elles, c'est effectivement plus compliqué parce qu'elles ont fait le choix de ne pas en faire pour des raisons qui les regardent. Et par conséquent, ça désorganise pas mal. Mais le télétravail, notre sujet, c'est à la fois mettre les gens 3 ou 4 jours comme l'a demandé le gouvernement, mais c'est aussi faire attention à qui on met en télétravail, en fait.
Oui, parce que c'est vous qui définissez les postes. C'est encore assez souple, relativement.
Oui, parce qu'un même poste peut être en télétravail dans une entreprise et pas possible dans l'autre. Mais surtout, on regarde aussi les gens, parce que vous savez que le télétravail, vous avez des tas de gens qui n'aiment pas, qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont des problèmes d'isolement, etc. Donc on doit aussi faire attention à ça. Il y a certes le poste, sa qualité de télétravaillable ou pas télétravaillable, mais il y a aussi les personnes concernées. Vous avez certaines personnes qui vous disent « mais moi je ne peux pas repartir 3 jours ou 4 jours, c'est pas possible ». Et ça, nous, on doit faire attention parce qu'on est responsable de la santé de nos collaborateurs quand même.
Pourquoi est-ce que le gouvernement a-t-il rendu ce télétravail obligatoire? Ce qu'il n'avait pas fait, hein, je le précise, lors des vagues précédentes. Ça sous-entend que certaines entreprises ne jouent pas le jeu, c'est le cas?
Bah, effectivement, on a été un petit peu surpris, pour être honnête, par ce choix de le rendre obligatoire, puisque au mois de juillet dernier, il avait indiqué qu'il redonnait la main aux entreprises pour leur organisation, et puis je pense que les entreprises ont plutôt fait le boulot en termes de lutte contre la pandémie. Maintenant, il a fait le choix de le rendre obligatoire, sans doute parce que certaines n'en font pas assez, et surtout, c'était une manière de désengorger les transports. Bon, on aurait préféré qu'ils s'abstiennent et qu'ils continuent à demander aux entreprises d'aller, par exemple, d'aller trouver des accords de télétravail.
Mais vous l'avez pris comme un manque de confiance, sachant que ça fait 2 ans quand même que vous appliquez, pour la plupart, scrupuleusement, toutes les règles.
Oui. D'une certaine manière, oui, pour être tout à fait honnête, alors que nous, on avait dit, mais laissez-nous faire. Depuis 2 ans, le nombre de clusters dans les entreprises n'a pas explosé. On est très responsable et sérieux dans la mise en place des gestes barrières, etc. Faites-nous confiance, on sait le faire. Et ne traitez pas de la même manière une tour de la Défense et une entreprise dans une zone artisanale d'une petite ville. Ça n'a rien à voir. Donc c'est curieux de le rendre obligatoire. Bon,
et je précise,
le gouvernement a fait un choix différent.
Ouais, et je précise qu'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par salarié pourra être infligée en cas de non-respect de cette obligation de télétravailler. Benoît Serre, le pass sanitaire en entreprise est définitivement abandonné. C'est Olivier Véran qui l'a confirmé hier dans le JDD. Le ministre de la Santé, dit-il, prend acte de l'opposition des syndicats et du patronat. Vous êtes rassuré?
Nous, on est contents parce qu'on avait l'occasion de s'exprimer assez fréquemment sur ce sujet-là, en indiquant que c'est vraiment pas une bonne idée, que à la limite, on pouvait comprendre qu'on nous demande un pass sanitaire pour aller dans les restaurants d'entreprise, par exemple, qui sont des lieux de contamination fort ou potentiel contamination fort, mais que le pass sanitaire dans toute l'entreprise, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux, ça avait posé quand même un paquet de problèmes. Donc on est assez content, et on est content que Olivier Véran confirme ça hier, puisqu'on était un peu inquiet à l'idée que il y a une
ça
sorte de coup parlementaire.
Oui.
Voilà, exactement. Donc, semble-t-il, ce ne sera pas le cas. On verra bien, mais ça ne devrait pas être le cas.
Dernière question, Benoît Serre. Est-ce que, entre l'inflation, hein, les chiffres du mois de décembre seront révélés demain, les prix qui augmentent donc, et la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, est-ce que 2022 va être l'année des hausses de salaire?
Il est certain que 2022 va être une année un peu particulière, avec une pression sur les salaires très forte pour les 3 raisons que vous venez d'indiquer. Et j'y ajouterai une 4e. Qui est une forme d'attente légitime de reconnaissance des collaborateurs d'avoir subi pendant 1 an tout ce qu'ils ont subi à cause de cette pandémie. Donc c'est vrai que les discussions vont être ardues quelquefois, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'augmenter les salaires, elles peuvent permettre d'augmenter d'autres formes de choses, oui, mais pas forcément les salaires. Donc c'est vrai que oui, c'est un sujet d'actualité de manière claire.
Eh bien, on suivra ça tout au long de cette année 2022. Merci beaucoup Benoît Serre d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Très bonne année à vous.
Merci. Au revoir.
6h19,
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce lundi avec Alban Le Prince.
Les enfants de retour à l'école dans 2 heures environ avec un nouveau protocole sanitaire. 1 cas et toute la classe doit se faire tester 3 fois. Les réunions parents-prof doivent aussi se faire à distance. Et pour faire un point sur l'impact du variant Omicron, notamment dans les hôpitaux, Jean Castex, le chef du gouvernement, réunit cet après-midi 10 ministres, parmi eux Olivier Véran, ministre de la Santé, Elisabeth Borne au travail et Bruno Le Maire à l'économie. Triste décompte, celui des féminicides. 3 déjà depuis le 1er janvier. Les collectifs expriment leur colère, notamment Nous Toutes, qui dénoncent le manque de réaction d'Emmanuel Macron.
On termine avec votre partition, Omblin, et retour le 3 janvier 1976. Michel Delpech est la vedette de l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier sur TF1.
Le programme, Julien, s'appelle Numéro 1, diffusé tous les samedis soirs. C'est le passage obligé des artistes qui font à ce moment-là la pluie et le beau temps dans les classements des chansons en France. Michel Delpech est alors plus populaire que jamais.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
En cette première partie de décennie 70, Michel Delpech enchaîne les tubes et les galas.
Il pose dans les magazines de l'époque à l'image de Salut les copains et en 1975, le public le découvre avec une moustache en jean, t-shirt, basket. Il a jeté ses pantalons pas def et ses chemises en satin. Le brushing, c'est terminé. Michel Delpech épouse les mœurs hippies de l'époque et il s'installe dans un appartement aux couleurs psychédéliques à deux pas des Champs-Élysées.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire.
Alors sa vie de popstar hein, dans l'opulence et l'excès cache un mal plus profond.
Il le raconte dans son autobiographie en 2011, lorsque la chanson Les Divorcés rencontre un succès fantastique, il se voit tomber, il explique « Sur le coup, on ne ressent aucune douleur précise, on reste hébété comme si une flèche vous avait frappé entre les omoplates. » Michel Delpech scintille sous les feux des projecteurs, mais dans l'ombre, il plonge lentement dans une dépression. Il part à Londres avec son parolier et grand complice Jean-Michel Riva pour enregistrer son nouvel album. Sur la pochette en noir et blanc, le regard fuyant, le menton caché par sa main, tenant un stylo, les femmes perçoivent la part sombre qui est en train de s'emparer de lui.
Laissez-moi le roi du bal, moi qui n'étais qu'un petit Mickey. Oh, oh yeah. Tu me fais planer.
Michel Delpech triomphe une fois de plus grâce à la toute dernière chanson du disque.
Une chanson avec un texte surprenant, il n'a pas encore 30 ans, prend à témoin une certaine Cécile et se chante vieux, bloqué par des rhumatismes gênants. Michel Delpech dresse le bilan de sa vie après des années de gloire, raconte le quotidien d'une idole et fait mourir Mick Jagger avec les chœurs. Il lance de nombreux clins d'œil aux Beatles qui ne sont séparés que depuis 5 ans finalement, mais cela semble être une éternité.
Alors en ce début d'année 1976, à la télé, sur la première chaîne, voilà, il pousse l'interprétation encore plus loin.
Après avoir repris cet extra de Léo Ferré en compagnie de Claude François, Michel Delpech apparaît grimé, les cheveux gris, assis sur un rocking chair.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur.
Quand Michel Delpech était chanteur dans l'émission numéro 1 des Carpentiers le 3 janvier 1976, il n'atteindra jamais l'âge de 73 ans. Michel Delpech nous a quittés le 2 janvier 2016. Il en avait 69.
Merci beaucoup, Ombline. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Dadi pour la météo. À tout de suite.